Hier, le thème était l'enjeu humanitaire à Gaza et autour de Blaise van der Linden se trouvait Alain de Staeck, le sénateur honoraire et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Il y avait également Richard Darmon, journaliste et spécialiste en géopolitique, et aussi au téléphone Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal que vous connaissez bien, vous qui êtes habitué de la matinale. On écoute un extrait donc de ce débat sur l'enjeu humanitaire à Gaza. C'était hier entre 13h15 et 14h avec Blaise van der Linden.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Judaïka entre 13h15 et 14h, comme tous les jours maintenant, cette nouvelle émission de débat, de discussion sur Radio Judaïka. Donc, on vous rappelle, chers auditeurs, avant de tout commencer, que vous pouvez réagir sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X, YouTube, sur les différents chats. Et puis, vous pouvez également nous appeler au 02 648 18 59, et si votre témoignage sera retransmis à l'antenne. Alors aujourd'hui, on va parler de cette aide humanitaire à Gaza qui fait les unes des actualités ces derniers temps, avec nos invités. Alain de Staeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur honoraire et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Nous accueillons également Richard Darmon. Richard Darmon, bonjour.
Bonjour, Shalom.
Journaliste et expert en géopolitique. Et puis nous serons rejoints d'ici une petite dizaine de minutes par Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal. Alors je le disais, l'aide humanitaire à Gaza est un sujet qui revient énormément dans les différents discours depuis le début de cette guerre provoquée, rappelons-le, par les massacres du 7 octobre. Ces dernières semaines, la Gaza Humanitarian Foundation est sous le feu des critiques. On a vu de nombreuses masses qui se précipitaient vers ces distributions. Il y a eu des morts. Pour commencer et mettre les choses dans leur contexte, Alain de Staeck, vous avez été témoin de ce genre de scène de guerre et de ce genre de besoin humanitaire. C'était au Rwanda, si je ne m'abuse. Racontez-nous un peu comment cela se déroule sur ce genre de scène.
Bon, pas seulement au Rwanda, au total, j'ai travaillé dans différentes positions pendant 12 ans avec Médecins sans frontières. Bon, c'est vrai qu'une situation comme celle de Gaza est unique au monde et n'a jamais été rencontrée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une population prise en otage par le Hamas, dont une partie de la population soutient le Hamas, avec des organisations humanitaires qui, depuis le début de la crise, n'ont jamais critiqué le Hamas, dénoncé le Hamas, ont mis tout leur poids à critiquer et dénoncer Israël. Et donc là, maintenant, il y a une tentative de mettre en place un nouveau système qui, à mon avis, fonctionne, même s'il n'est pas encore rodé et qui a probablement eu des bavures, il ne faut pas le nier. Mais pour terminer cette première intervention, moi ce qui me frappe, c'est, j'ai lu juste avant de venir chez vous, que 145 ONG ou organisations humanitaires avaient dénoncé cette Gaza Humanitarian Foundation. Alors déjà, appelé à la fermeture. Et déjà, j'ai envie de dire à ces 145 organisations, tiens, on vous a pas entendu dénoncer le Hamas, on vous a pas entendu dénoncer la prise en otage de la population, on vous a pas entendu dénoncer le 7 octobre, et tout d'un coup vous parvenez à vous mettre d'accord pour faire un communiqué demandant l'arrêt de GHF. Donc depuis le début, et je m'arrêterai là dans un premier temps, mais depuis le début on est vraiment dans le deux poids deux mesures. Je pense que si ces 145 organisations et si les gouvernements européens avaient tous fait pression pour rappeler régulièrement la nécessité de libérer les otages, parce qu'il faut quand même bien dire que si les otages étaient libérés demain, on n'en serait pas là, et donc voilà, une fois de plus, malheureusement, on est dans le deux poids deux mesures.
Oui, justement, Richard Darmon, donc Alain de Staeck le rappelait, 145 organisations caritatives et humanitaires ont appelé à la fermeture de la fondation Gaza Humanitarian Foundation, une fondation qui est, rappelons-le, soutenue par Israël et les États-Unis. Alors selon un communiqué conjoint, depuis le début des opérations du GHF, c'était fin mai, plus de 500 Palestiniens auraient été tués et près de 4000 blessés, on le rappelle, selon ce communiqué conjoint. Ces organisations, et comme le rappelait Alain de Staeck, négligent complètement le rôle du Hamas dans ces meurtres et dans ces pillages.
Oui, tout à fait. D'abord, les chiffres que j'ai à Jérusalem, d'où je vous parle, où je réside depuis pas mal de temps, quelques décennies, on parle de 170 organisations qui ont effectivement appelé donc par l'intermédiaire de l'ONU à Genève les différentes associations à boycotter cet organisme. Il faut, écoutez, à vrai dire, je crois que celui qui m'a précédé l'a bien dit, on a affaire à une campagne de manipulation médiatique de première envergure de la part du Hamas. D'ailleurs, c'est le seul terrain où il peut encore livrer bataille, parce que il est en situation extrêmement dangereuse. Il se bat pour ce qui peut sauver de sa survie, à la fois politique et encore moins au plan militaire. Et donc, en plus, le Hamas fait face à l'émergence de clans, notamment bédouins, dans certaines zones de Gaza, qui ont décidé de prendre les choses en main et d'administrer ce qu'ils peuvent administrer de manière autonome. Et donc, il y a des règlements de compte internes terrifiants. D'ailleurs, je voudrais signaler, pour que les auditeurs comprennent bien la situation, car vu par le prisme de l'ONU ou alors de certains médias qui ont une, je dirais, une condamnation, qui font des condamnations immédiates d'Israël sans du tout connaître les réalités de terrain, eh ben, les 500 personnes dont on parle, d'abord, ce sont des chiffres qui sont communiqués par le ministère de la Santé, si on peut l'appeler comme tel, du Hamas. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes, peut-être pour enlever 1-0, 2-0, on ne sait pas très bien, mais de toute manière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart de ceux qui ont été tués autour des points de distribution alimentaire, c'est le Hamas qui a tiré sur les foules. Il y a eu, oui, au début, un ou deux incidents, parce que ça a vu des foules arriver, il y a eu quelques dysfonctionnements dans la mise en place des points de distribution, mais malheureusement, ceux qui ont été tués ont été abattus par les miliciens du Hamas, qui se sont empressés, comme ils faisaient depuis le début de la guerre, de s'approprier les camions en faisant monter des hommes armés sur les palettes de marchandises à distribuer. Et quand les Gazéens se faisaient trop pressants, et ils venaient trop près de lui, bien ils ont tiré dessus. Et donc je suis pas en train de dire que c'est tout noir et tout blanc d'un côté et pas de l'autre. Bon, il y a eu effectivement au début, je répète, quelques bavures de la part de Sall pour mettre en place le système. Mais les morts dont on parle, d'abord il y en a beaucoup moins, et ensuite c'est le Hamas qui a tiré sur sa propre population. C'est pas nouveau de la part d'un mouvement qui n'a ni foi ni loi, et qui, comme la fin justifie les moyens, qui se sert de sa population depuis le début de son existence comme bouclier pour pouvoir installer dans ses écoles, les hôpitaux et partout ailleurs ses arsenaux et ses points de tir et ses roquettes. Et donc, ils n'en ont que faire de la population, à tel point. D'ailleurs, une chose qui le montre bien, c'est pas seulement l'aide alimentaire, c'est que avec tous les milliards de dollars qui sont arrivés avant l'aide humanitaire au nom de l'aide aux Palestiniens depuis des décennies, ben, ils n'ont fait que faire quoi? De construire des tunnels, acheter des armes. Et il n'y a pas un seul abri qui a été construit pour la population à Gaza. D'ailleurs, c'est le cas aussi en Iran. Mais à Gaza, la population, à part les cadres et les miliciens de ces organisations, comme donc le Hamas ou le Jihad islamique, qui peuvent se cacher dans les tunnels, la population n'a aucun abri. Et donc, c'est pas étonnant si par ailleurs, quand on essaye de faire un abscès fixation sur les questions humanitaires pour déprécier l'image d'Israël, eh bien, ils sont prêts à tirer sur leur propre population, et c'est ce qui s'est passé.
Meir Daran, colonel de réserve de Tsahal. Bonjour, Meir Daran.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Merci.
Très impressionnant, Germain. Très, très impressionnant.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on rappelle à tous nos auditeurs que vos réactions et vos questions sont les bienvenues au téléphone 02 648 18 59, 02 648 18 59, ou bien en commentaire sur Facebook, X et YouTube. Alors, Meir Daran, vous avez entendu le discours de Richard Darmon sur les hommes politiques, sur les médias, principalement ici en Europe, et puis en Occident. Vous rentrez de Gaza, la situation est aussi grave que la plupart des médias occidentaux le disent en termes d'aide humanitaire?
Oui et non. Oui, car il s'agit de 2 millions de personnes, comme il a dit tout à l'heure, des otages de Hamas, mais c'est aussi des adhérents, il faut le dire, et qui se bousculent du nord au sud, du sud au centre, du centre au nord, et éparpillés un peu partout, entre de bombardements, et ça dure depuis 635 jours. Donc, forcément, c'est une situation très grave pour ces citoyens. Mais bon, À partir de là, il faut se poser des questions. Mmh. Pourquoi et comment on est arrivé à cela? Et ça, c'est d'un côté. D'un autre, Monsieur Darmon a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots pour décrire une situation qui s'appelle tout simplement antisémitisme. Le premier nuage qui est venu après le 7 octobre, c'était l'antisémitisme. Une vague d'antisémitisme dans le monde entier, notamment dans les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis et partout. Mais que ça dure et que ça accentue encore aujourd'hui, ça a baissé un peu dû à la guerre de l'Iran, que les gens ont eu le temps de réaliser qu'on est en train de mener la guerre pour eux. Mais bon, il faut attendre que ça revienne. Ça fait plus de 2000 ans que c'est le cas.